France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, en direct à 14h le mercredi. Bonne année si vous êtes derrière le poste ou votre téléphone ou un autoradio. En ce 7 janvier, ou si vous podcastez l'émission plus tard, aujourd'hui, nous nous intéressons aux étudiants et à l'université. La France maltraite-t-elle ses étudiants et en quoi les racines de ce problème, de cette question, sont-elles historiques ? Il est moche, en tout cas je le trouve moche, moi, ce mot « massification » qui désigne l'augmentation sensible du nombre de jeunes qui mènent des études. Ce radical « masse » dit peut-être beaucoup de la façon dont la France a accueilli de nouveaux étudiants et de la vision des catégories populaires, puisque ce sont eux, les nouveaux jeunes, qui fréquentent les universités. La massification a marqué l'histoire de l'enseignement supérieur au XXe siècle et continue d'être un sujet d'actualité. Je suis sensible à la météo. Il me semble qu'elle est envisagée un peu cette massification comme la neige, un phénomène parfaitement prévisible, mais qui surprend toujours par son ampleur et désorganise tout. Le pays ne semble jamais bien préparé, exposant sa population, en l'occurrence les jeunes, à des difficultés très limitées dans le temps avec la neige, et la comparaison s'arrête là. Mais des difficultés qui deviennent des enjeux décisifs pour la vie et l'avenir des étudiants. L'enseignement supérieur public dans les années 60 et 90 s'est déjà trouvé dans ces problématiques et la situation s'avère plus aiguë encore dans cette décennie, je ne sais pas si on doit dire les années 20 d'ailleurs. L'alerte est très régulièrement lancée sur le manque de financement de nos facultés. Ainsi, le 6 janvier, c'est-à-dire hier, si vous nous écoutez maintenant, Delphine Letor, présidente de l'Université du Mans, s'interroge dans Ouest France. Comment un pays peut-il prétendre préparer son avenir en laissant mourir ses universités ? Mourir. Alors à quoi ressemblerait un enseignement supérieur à la hauteur des besoins en formation de la France ? Vaste question que nous traiterons sur plusieurs épisodes cette année avec un débat sur la sélection à l'université ainsi qu'un numéro sur les enseignants du supérieur prochainement. Mais dans cet épisode, on va se concentrer sur les jeunes, sur les étudiants. Ils sont 3 millions et près de 980 000 lycéens, donc, vont être candidats sur la plateforme Parcoursup. Alors, certains sont déjà étudiants, en fait, pour tout dire. La plateforme, donc, d'orientation post-bac qui a ouvert ses portes avant les vacances de Noël et où il sera possible de formuler ses vœux à partir du 19 janvier. D'ailleurs, est-ce que Parcoursup a changé le regard sur l'université ? On va s'interroger sur ce point en fin d'émission. Mais on commence avec la pauvreté. On a parlé de celle des universités. L'actualité, cette semaine, c'est celle des étudiants.
Un étudiant sur trois finit.
Alors, on avait un petit son pour lancer l'émission. Est-ce qu'on peut le diffuser ?
Un étudiant sur trois finit le mois avec 50 euros. La précarité gagne du terrain. 90% des étudiants subissent les conséquences psychologiques. C'est ce que nous révèle ce matin l'Union étudiante qui a mené une enquête nationale auprès de 5000 étudiants. Un tiers d'entre eux vivent avec moins de 50 euros mensuels, une fois le loyer, l'alimentation, les factures payées. Et un sur 10 n'a même plus du tout d'argent à la fin du mois.
Je me retrouve vraiment à avoir 20 euros sur mon compte. Enfin, c'est un peu le stress. Sauf qu'à l'extrême, j'évite d'aller chez le médecin. Je connais un de nos camarades de promo qui n'a pas de logement pour cette année. Il se retrouve dans une situation où alors qu'on est en janvier, quoi. C'est vraiment lourd.
Extrait du témoignage d'Aïcha au micro de Sarah Mansoura pour France Inter, ouverture du journal de 7h du 6 janvier. Julien Mémon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur et enseignant en sciences politique, vous avez occupé des responsabilités importantes dans l'administration publique, spécialiste aussi de l'économie circulaire. Vous luttez contre la précarité puisque vous présidez depuis 2016 Linky, Entraide étudiante. C'est une association d'aide alimentaire, la première association qui s'occupe de ce sujet en France. Vous avez publié Fin d'études, c'est un libelle au seuil en 2025. Est-ce que la pauvreté est le lot d'un nombre croissant d'étudiants ?
Alors oui, sans doute. Je pense que c'est un phénomène qui a été aggravé fortement par la crise sanitaire qu'on a connue en 2020, qui a contribué aussi à révéler l'existence d'une partie, d'une catégorie d'étudiants qui n'ont pas les moyens d'étudier, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de bouffer. Voilà, c'est ça qui se passe, tous les jours. Et c'est les étudiants qui sont pris en charge par Linky Entraide Étudiante, qui a une responsabilité particulière, mais par plein d'autres associations qui existent et qui existaient aussi avant Linky et qui font de l'aide alimentaire. Est-ce que la pauvreté a augmenté? Alors, on parle de pauvreté, on parle de précarité, on parle de misère, on a parlé de misère. De misère en milieu étudiant. Je crois que c'était un pamphlet qui était sorti
en 1966
à Strasbourg. Et absolument. Et je me demande s'il ne faut pas réhabiliter ce mot de misère, parce que les étudiants qu'on croise, en tout cas dans mes fonctions dans l'association Linky Entraide Étudiante, les étudiants qu'on croise tous les jours sont des étudiants qui sont en misère. C'est-à-dire que ils n'ont pas les moyens de poursuivre leur but, à savoir étudier pour pouvoir se former, pour pouvoir occuper des fonctions qui sont à la hauteur de leurs espérances. Et ce sont des jeunes qui ont gravi tous les échelons, qui ont dépassé toutes les difficultés, c'est-à-dire qu'ils ont franchi la première étape, le premier diplôme, qui est le bac. Et ils ont eu leur bac, ils se sont inscrits à l'université, mais finalement, ils n'ont pas les clés par la suite pour pouvoir continuer leurs études et les mener à terme. Est-ce que ça a augmenté? Oui, probablement, à mesure que l'enseignement supérieur changeait, puisqu'il y a eu de plus en plus d'étudiants, vous y faisiez référence et je crois qu'on va y revenir tout à l'heure, il y a eu de plus en plus d'étudiants, si on compare les années 60 à aujourd'hui, c'est une massification qui est très forte, très importante, très sensible de l'enseignement supérieur, mais il y a aussi un changement structurel, c'est-à-dire que ceux qui arrivent, les nouveaux venus à l'université, sont des jeunes qui sont issus des classes modestes, des classes populaires, des classes moyennes, ils n'ont pas les codes et ils n'ont pas les ressources qu'ont tous les héritiers, c'est-à-dire tous ceux dont les parents étaient à l'université dans les années 60.
Donc, il y a à la fois des codes pour réussir ces études et puis un héritage qui n'est pas forcément un héritage culturel, mais une question de moyens financiers pour assumer le coût des études. Alors, on va revenir sur deux points importants. Qui aide les étudiants, les associations? Il y a aussi des structures quand même publiques, le CROUS. On va en parler. Et puis, la massification. Mais on a avec nous à distance, parce qu'avec la neige, les déplacements, on a eu beaucoup de questionnements pour organiser cette émission. Donc, on a Héloïse Lefebvre-Milon, qui est co-secrétaire nationale de l'Union étudiante. C'est une fédération de syndicats étudiants. C'est vous qui avez sorti cette étude qui a fait la une d'Inter, d'Info. Enfin, on en a beaucoup parlé sur nos antennes à Radio France. Héloïse Lefebvre-Milon, il est important de fournir des chiffres et d'alerter la presse et la population sur un sujet que pourtant on a l'impression de bien connaître.
Oui, effectivement. Bonjour déjà.
Bonjour.
Nous, cette rentrée 2026, on a voulu pouvoir ressortir une enquête sur la précarité étudiante, sur cette situation que, comme vous le dites, on ne découvre pas, puisque depuis le Covid, il s'agit quand même de quelque chose d'assez connu, que les étudiants en France sont précaires. Et nous, ça fait depuis plusieurs mois qu'on constate au quotidien, sur le terrain, dans nos universités, que cette précarité, elle continue d'augmenter depuis la fin du Covid. Et donc, c'était l'objectif de cette enquête qu'on a menée de septembre 2025 jusqu'à ce mois de décembre, auprès de 5000 étudiants. Et le constat, il est assez flagrant. C'est le fait que la précarité étudiante ne fait qu'augmenter du fait des politiques qui sont menées notamment par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. Donc là, on ne parle pas d'une crise passagère, c'est le résultat de choix politiques qui se sont succédés depuis des années pour sacrifier la jeunesse. Donc, préférer faire l'austérité, casser les services publics, l'université publique, plutôt que de financer massivement un service public de l'enseignement supérieur. Donc, on parle à la fois du CROUS qui est sous-financé, des universités qui le sont, et du montant des bourses qui sont insuffisantes. Aujourd'hui, nous, on calcule avec l'Union étudiante que, en 8 ans de mandat d'Emmanuel Macron, les étudiants ont perdu près de 3 000 euros de pouvoir d'achat. Ça, c'est le résultat de la non-augmentation des aides, des APL, des bourses qui n'ont pas suivi l'inflation. Quand le coût de la vie continue d'augmenter chaque année, que les frais d'inscription, la CVEC, elles continuent d'augmenter chaque année, mais les bourses, les dernières fois qu'elles ont été revalorisées, c'était qu'en 2023. Et aujourd'hui, le montant de l'échelon 7, qui est le plus fort échelon des bourses, donc c'est l'échelon que touche peu d'étudiants par rapport à l'échelon 0 bis, qui est le premier échelon du système de bourse sur critères sociaux, il est qu'à 633 euros, ce qui est moins de la moitié du seuil de pauvreté, ce qui signifie que structurellement, les étudiants en France, ils sont précaires. Et que même quand on est reconnu dans la situation financière la plus délicate, on ne mérite même pas d'avoir une bourse qui est au niveau du seuil de pauvreté. Donc c'est ça qu'on constate. Les chiffres, pour en citer quelques-uns, redisent qu'il y a un étudiant sur deux qui saute des repas et qui a renoncé à se nourrir pour des raisons financières. C'est un étudiant sur deux qui est mal logé. 7 sur 10 qui subissent au moins une nuisance, soit le froid, soit le bruit, soit des nuisibles dans leur logement étudiant. C'est la moitié des étudiants qui sont contraints de travailler pour financer leurs études en parallèle de leur année universitaire, ce qui signifie que c'est mettre en danger en réalité sa réussite. Hein, quand on travaille plusieurs heures par semaine en parallèle de ses études, c'est beaucoup plus compliqué de réussir son année. Et donc, en somme, c'est une asphyxie financière des étudiants et des étudiantes qui découle sur une réalité, comme vous l'avez dit, assez impressionnante de 90% des étudiants qu'on a interrogés qui déclarent s'être trouvés dans une situation de détresse psychologique dernièrement dans l'année.
Il est très intéressant ce lien aussi avec la santé mentale qui est fait et relativement nouveau. Je vous redonne la parole dans un instant. Évidemment, Julien Mémon, c'est un peu nouveau ou pas d'ailleurs de faire ce lien avec non pas seulement la possibilité matérielle de continuer ses études, mais bien un risque pour la personne et pour toutes ces personnes qui essayent de construire leur avenir, de se retrouver en détresse psychologique.
Alors, je pense
que c'est un phénomène nouveau aussi de parler de ça à une époque où on parle plus de santé mentale.
Je pense que c'est peut-être plus nouveau aujourd'hui. Enfin, ce qui est nouveau, c'est peut-être d'en parler, de l'évoquer et en l'associant à la précarité. En revanche, le phénomène existe sans doute depuis bien plus longtemps. C'est-à-dire que les deux étaient associés, détresse économique et détresse mentale ou psychologique. Le fait que ce soit une grande cause nationale, le fait que beaucoup de médias en aient parlé. Je me souviens qu'on en a beaucoup parlé à l'hiver 2021. Donc, on était encore en plein confinement. Et dans les effets sensibles du confinement, l'isolement et la précarité psychologique ont été mis en avant à ce moment-là. Et puis, comme beaucoup de sujets, d'ailleurs, c'est relativement retombé, en quelque sorte. Et on s'est dit, bon, ben, j'en entends plus parler, peut-être que ça a baissé. Loin s'en faut, ça a augmenté. Et on se rend compte que la santé mentale des jeunes est un point absolument central dans l'analyse de leur précarité. Quand l'Union étudiante réalise cette étude, quand d'autres associations, Linky a aussi réalisé une étude auprès de 25 000 étudiants, on tombe sur à peu près les mêmes chiffres, et le reste à vivre, ce qui leur reste à la fin du mois, une fois qu'ils ont payé leurs charges fixes, c'est moins de 100 euros, moins de 50 euros par mois pour se nourrir, c'est aussi moins de 100 euros, moins de 50 euros pour se soigner. Donc la précarité en termes de santé, psychologique ou de santé tout court, est un point très sensible. Ce sont des jeunes qui se privent de tout. Ils se privent de nourriture et ils se privent de soins pour eux et de soins élémentaires. C'est quand même un fait marquant sur le phénomène qu'on peut voir et sur ce qui peut être dit par plein de gens, c'est-à-dire le sort qu'on réserve à cette fraction de la jeunesse. C'est quand même un sort peu enviable. Oui. Avoir 20 ans en 2021, 22, 23, 24, 25, avoir 20 ans en 2026, c'est pas forcément une grande chance, quoi. Pas aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas difficilement audible? Parce que d'une certaine manière, ça a été beaucoup dit, ça a été beaucoup raconté, mais vous faites la citation hein, dans votre libelle, sans se référer forcément à Jules Vallès et au XIXe siècle, cette figure de l'étudiant pauvre, elle existe dans notre imaginaire. Et finalement, manger de la vache à enrager, c'est un peu le destin des jeunes pour après accéder à une meilleure position, mais comme un moment de passage. Je mets plein de guillemets, ça ne veut pas dire que je le pense moi, mais c'est une représentation.
Alors, il y a deux choses. Il y a une analyse un peu sociologique de la littérature et de l'image qu'on peut avoir de la précarité étudiante. Et effectivement, un certain nombre d'auteurs ont en quelque sorte héroïsé ce passage difficile. Vous citiez Vallès, on pourrait citer Balzac ou Stendhal, Eugène de Rastignac est aussi un étudiant précaire. on retrouve dans cette héroïsation une manière d'euphémiser en quelque sorte la pauvreté et la difficulté, puisque finalement on s'en sort. Et ça rend acceptable dans ce que collectivement on peut penser de la précarité et des études qui sortent régulièrement, ça peut rendre acceptable ou contribuer à rendre acceptable quelque chose qui ne l'est pas en fondamentalement. C'est-à-dire que les étudiants eux-mêmes euphémisent leur propre précarité. Quand ils parlent de leur propre précarité, ils parlent de galère. Quand les plus anciens voient ces jeunes qui sont en difficulté, ils se disent « Ah ben, moi aussi, quand j'étais étudiant, j'ai eu des difficultés, c'est un mauvais moment à passer. » Et c'est pas ça la réalité. C'est pas ce que disent les études. L'étude de l'Union étudiante, l'étude de l'INCI, les études de la FAGE.
Ah oui, j'allais ajouter l'Observatoire de la vie étudiante.
L'Observatoire de la vie étudiante, l'INSEE, le SAMU social. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont eu lieu sur la précarité étudiante. Elles ne disent pas que c'est une galère passagère. Elles disent que c'est une précarité structurelle et elles disent que ça handicape à long terme des jeunes qui ont prévu de s'inscrire dans un ensemble de formations post-bac et auxquelles ils n'auront pas accès parce qu'ils sont privés des éléments essentiels qui leur permettent de suivre leurs études, c'est-à-dire de la nourriture et des soins.
Et je me demande aussi si derrière, il n'y a pas l'idée que les études rapportent un peu moins en termes d'emploi et de salaire, évidemment, ça dépend desquels. Jean-François Condette, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oh là là, je suis tellement contente de vous entendre. Alors, vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille, dont vous nous parlez. Vous deviez venir, mais ça n'a pas été possible en raison des conditions météo. Vous travaillez au sein du laboratoire Artis Histoire, Histoire de l'Art, Archéologie, Texte, Images et Société, qui est rattaché au CNRS. Vous avez publié plein d'ouvrages. D'ailleurs, on vous avait reçu pour votre histoire de l'enseignement. Et tout récemment, donc, Histoire de l'enseignement supérieur en France, 19e-21e siècle chez Armand Collin. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser si peut-être l'histoire explique le présent. On aime bien cette formule sur France Culture, en particulier Jean-Noël Jeannet. Et puis, je voudrais revenir avec vous sur cette expression qu'a utilisée Héloïse Lefèvre-Milon, sacrifice de la jeunesse. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son histoire? On parle souvent, en fait, du sacrifice de la jeunesse quand on veut dénoncer le manque de moyens de l'université.
Oui, merci et désolé de pas être parmi vous à cause de la neige. Alors sur cette, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la grande misère étudiante actuelle. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une question d'énorme diversité de ce qu'est l'enseignement supérieur en France. Hein, il y a 3 millions d'étudiants, 1 600 000 à peu près dans les universités. Et bien évidemment, toutes les jeunesses ne sont pas touchées de la même façon par cette précarité étudiante, par la misère sociale des études. Je ne vais pas dresser le panorama, mais bien évidemment, entre les élèves des classes prépa, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs et les élèves, les étudiants de l'université, de la faculté des lettres, faculté des arts, etc. C'est pas exactement les mêmes profils. Donc il y a vraiment différentes échelles quelque part dans cette histoire de l'université et des étudiants à l'université en général et dans l'enseignement supérieur. Sur l'image quelque part des l'étudiant miséreux du 19e, Jean-Claude Caron avait déjà montré que c'était quand même, l'image littéraire existe bien, il y a bien des cas, mais que la plupart du temps quand même, c'est quelque part une jeunesse qui est quand même dotée de moyens importants. Et moi, par rapport à ce que vous disiez, je voyais par exemple les tout premiers boursiers, par exemple de l'enseignement supérieur, c'est 1877, bourse de licence, et les bourses d'agrégation en 1880. Et quelque part, elles sont déjà contestée quelque part par une partie des forces politiques, une partie de l'opinion, en disant qu'on va déraciner ces jeunes issus de milieux sociaux moins privilégiés, qui n'ont pas les codes. Donc c'est vraiment un dossier, voilà. Alors, sacrifice de la jeunesse, pas systématiquement, pas. Il y a eu quand même des périodes. Enfin, l'histoire de l'enseignement supérieur, elle se fait assez souvent en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où il y a eu pas mal d'investissements et il y a d'autres périodes où c'est plus compliqué. Donc là, je pense qu'on est dans une période compliquée, qu'il y a eu des périodes quand même plus dynamiques. Il y a eu des périodes pendant les 30 glorieuses où le nombre de boursiers avait beaucoup augmenté, où on a vraiment développé une politique sociale forte. Donc c'est complexe. C'est aussi lié à l'état de l'économie et à l'état de l'État, je dirais, également.
Mais cet investissement dans l'université, est-ce qu'il ne vient pas souvent en retard par rapport aux besoins ressentis? C'était le cas dans les années 90, qui est aussi une période de massification. En fait, il y a aussi des effets de génération, les années 60, les années 90, les années 2020. Et la question, alors j'ai une double question, Jean-François Condette, et après je la poserai aux autres intervenants de l'émission. D'où vient le mot massification? Ça, c'est spécifiquement pour vous. Est-ce qu'on a toujours utilisé ce terme? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est pour pas parler de démocratisation? Parce que la démocratisation, elle n'est pas vraiment réalisée.
Ah, c'est deux notions très compliquées en sociologie. Antoine Prou parlait de démocratisation quantitative et qualitative. Donc la massification, quelque part, c'est la hausse des effectifs. Voilà, ça se voit. Voilà, il y a le nombre d'étudiants qui est doublé, qui est triplé. Et la démocratisation, bien évidemment, c'est l'idée d'aller chercher les talents et les capacités là où elles sont. C'est-à-dire pas forcément dans les milieux privilégiés. C'est-à-dire qu'on ouvre l'université, on ouvre les études supérieures à ceux qui en ont les capacités et la volonté, même s'ils ne sont pas dans les milieux sociaux privilégiés de départ, les héritiers, pour faire simple, décrits par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Donc, massification, elle existe réellement. En fait, il y a deux vagues principales de massification. Il y a une première massification, mais qui n'en est pas vraiment une. C'est après 1880, les réformes républicaines. C'est une augmentation des effectifs de l'enseignement supérieur en lettres, en sciences, etc., mais qui n'est pas une démocratisation. On reste dans un milieu privilégié, avec quelques exceptions consolantes, comme on disait à l'époque, que sont les boursiers. La première vraie massification, c'est à partir de 1955, jusque vers 1975. Là, les effectifs vont beaucoup, beaucoup augmenter, avec une réelle augmentation des milieux ouvriers, des milieux de classe moyenne, classe intermédiaire. Parce qu'il y a une politique aussi d'aide qui existe, qui est forte, par les CROUS, par tout ce qui va être structure de résidence universitaire, etc. Et la troisième vague, enfin la deuxième vraie vague de massification, elle est à partir des années 85 dans certaines universités, 89-90, vous avez raison. Et bon, elle s'achève là, c'est-à-dire que quand on passe à 80% d'une classe d'âge niveau bac, c'est l'idée de l'accès presque aux études supérieures pour tout le monde. Mais on est dans un autre contexte. Dans la première vague, on était en 30 glorieuses, taux de chômage très faible, etc., etc. L'État qui a de l'argent pour pouvoir construire les nouveaux campus, etc. Là, on est dans un contexte de massification des effectifs étudiants, dans un contexte économique qui est plus le même. Et dans une nouvelle politique aussi, de l'État, qui est une sorte de désengagement vis-à-vis de l'enseignement supérieur, qui doit être financé par lui-même ou par les collectivités territoriales, etc. Donc là, je rejoins assez les collègues dans ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même contexte pour cette massification finale, je dirais, des études supérieures.
Julien Mémon, vous posez la question dans votre ouvrage, démocratisation ou hiérarchisation. C'est ce que cacherait le mot massification. Et vous avez plutôt tendance à verser du côté de la hiérarchisation. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, effectivement, parce que je souscris à ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est parfaitement juste, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus de jeunes qui accèdent à l'université. Et entre les 215 000 étudiants qu'il y avait en 1960-1961 et les plus de 3 millions d'étudiants qu'on a aujourd'hui, avec un développement très fort de la sphère de l'enseignement supérieur privé dont il faudra qu'on parle aussi, il y a des changements structurels qui sont extrêmement importants. Et comme vous le suggériez tout à l'heure, il n'y a pas eu, de mon point de vue, d'accompagnement à la hauteur des effectifs qui ont changé. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est comme si on disait à toute une classe d'âge, mais on vous propose cet appartement, mais débrouillez-vous pour trouver la clé, quoi. Forcément, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les moyens, et en plus, ils n'ont pas les codes. Et parmi les codes, il y a la question des filières. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ceux dont les parents ont été en grandes écoles, par exemple, ont poursuivi des études supérieures prestigieuses. Ceux-là, leurs enfants, sont beaucoup plus efficacement armés pour affronter ces concours, ces difficultés, pour choisir les bonnes filières, que ceux qui arrivent à l'université sans rien connaître des différentes filières. Et on se rend compte que il y a des filières, ça c'est, je fais référence plutôt aux années 80, 90, où il y a ce fameux principe de 80% d'une classe d'âge qui doit atteindre le bac et donc entrer à l'enseignement supérieur.
Alors, je précise quand même quelque chose. Donc, ce sont les objectifs énoncés par Jean-Pierre Chevènement. Ouais. Les 80%, ils ont été obtenus avec beaucoup de bacheliers professionnels, de retard peut-être, de bacheliers professionnels et technologiques, ce qui s'est répercuté aussi sur l'orientation de certains d'entre eux dans les filières du supérieur. Mais il n'y a pas 80% de lycéens au bac général. Et c'est, on peut trouver ça bien ou mal, ce n'est pas mon sujet. Il n'y en aurait que 50% à peu près.
Oui, tout à fait. Mais vous avez une hiérarchisation des filières. C'est-à-dire que c'est forcément, quand vous regardez qui sont les étudiants qui font médecine, ce sont plutôt des jeunes hommes, plutôt dont les parents ont été médecins ou sont médecins, qui viennent de milieux pas populaires ni de classe moyenne. Et quand vous regardez d'autres filières, plus facilement accessibles, vous vous rendez compte que avec moins de sélection à l'entrée, vous vous rendez compte que il y a beaucoup plus de jeunes qui sont issus des classes moyennes ou des classes populaires qui les choisissent en quelque sorte, mais qui les choisissent sans savoir et sans pouvoir hiérarchiser ces différentes filières. Et donc ces filières et cette hiérarchisation s'est progressivement renforcée.
Et ça, c'est la question de l'information dans un paysage hyper complexe que vous décrivez bien, Jean-François Condette, parce que dans ce livre sur l'histoire de l'enseignement, il y a aussi beaucoup de géographie, une géographie des universités avec des petites, des grandes, celles qui décident de jouer d'une certaine manière à fond le jeu de la sélection, d'autres non, celles où on sera plus facilement sélectionné, par exemple sur Parcoursup, d'autres qui deviennent très difficiles à avoir, si avoir, parce qu'on parle d'avoir ses vœux. Jean-François Condette.
Tout à fait. En réalité, de toute façon, il y a plusieurs échelles. Il y a Paris et la province. Il y a quand même depuis le 19e siècle, Paris a toujours concentré plus de 50% des étudiants, parfois plus à certaines périodes. Et puis bien voir aussi que cette massification, démocratisation, comme on l'appelle, elle s'est traduite par un développement considérable du type d'établissement, diversification, professionnalisation d'école. Mmh. Pour faire très simple, en France, jusqu'en 1950, il y a 16 ou 17 universités, si on compte celle d'Alger ou pas. Donc le paysage, il est quand même assez simple, où on a été un temps en 2005, je crois que c'était le moment maximal, il y a eu 81 d'universités. Alors bien évidemment, c'est pas 81 copies de la Sorbonne. Il y a forcément des différences, c'est pas le même recrutement. Donc je regardais un petit peu là dans les statistiques actuelles, quand on dit l'université, ça veut pas forcément dire grand-chose. Paris 1, c'est plus de 45 000 étudiants. L'université de Lille réunifiée, là, c'est près de 74 000. Et je regardais, par exemple, Avignon, c'est 6 270. Ou l'université de Chambéry, 14 000 étudiants. Donc, on a vraiment un monde qui est devenu très, très composite. Et ça, c'est rien que pour les universités. Donc, il faudrait rajouter les écoles de commerce. Le collègue disait, il y a à peu près 25% des étudiants qui sont dans le privé aujourd'hui. Toute la forêt d'écoles de commerce, d'écoles de gestion, de comptabilité.
Plus les écoles à but lucratif, on a consacré une émission à l'enquête très très intéressante de Claire Marchal, le Cube, il y a quelques mois, pas tout à fait un an, mais dites-moi, il y a quand même une différence de prestige ou non. On parlait de hiérarchie, Jean-François Condette, entre l'université d'une petite ville, je vais pas donner de nom pour fâcher personne, et puis une grande université parisienne type Paris 1 ou BSL, on pourra donner d'autres noms, qui semble réunir plus d'atouts aux yeux de certains étudiants et qui, pour certaines, c'est pas pour rien que j'ai dit BSL aussi, ont des filières sélectives, puisque par exemple, il y a la faculté d'économie de Dauphine, qui d'ailleurs n'applique pas les mêmes droits d'inscription, c'est plus cher d'aller dans cette université sélective.
Tout à fait, je vous rejoins entièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une université comme il y a pu y avoir à une époque. Bon, même si on peut discuter, il y a toujours eu l'attrait des grandes universités parisiennes. Mais il y a un paysage extrêmement composite, avec des filières qui sont devenues très sélectives, en le disant ouvertement ou en le disant moins, mais en sur-sélectionnant sur les dossiers. Et puis, il y a d'autres filières où, même par Parcoursup, etc., il y a beaucoup moins de demandes. Donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup moins de sélection finale. Donc, c'est vraiment devenu, c'est à la fois géographique, deux spécialités selon les filières. Et forcément, ça rejoint ce que disait le collègue sur les familles qui ont les codes. Pour pouvoir savoir que voilà, il faut tel atout dans le dossier pour pouvoir essayer d'entrer à Paris 1, à Sorbonne Université, à PSL ou à Toulouse, je sais quoi, ou à Lille, je sais quoi. Et puis d'autres qui les auront moins et qui finalement, ben, ça va être les derniers vœux qui seront quelque part choisis. C'est devenu très très compliqué dans le choix des filières. À sélection réelle, déguisée, indirecte, c'est très complexe. Et en effet, à partir de là, si on le corrèle avec les CSP des parents, on rejoint ce que disait le collègue. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends les enfants de cadre ou de profession intellectuelle, donc on pourrait dire ceux qui ont le plus les codes, quelque part, du système, ils forment 53%, moi j'avais retrouvé là, des étudiants en classe prépa, 65% dans les ENS, mais 16% des élèves des classes de section technicien supérieur pour les BTS. Donc il y a vraiment un usage du réseau des établissements qui est devenu très très compliqué.
Parce que le mot qui domine aussi, l'orientation aujourd'hui, c'est la stratégie. Et cette stratégie, il faut être capable, il faudrait être capable de l'anticiper au niveau de la scolarité. Mais pour revenir à cette idée de massification et de hiérarchie, est-ce que cette hiérarchisation, elle participe aussi peut-être au manque d'espoir? Peut-être pour pas donner des mots psychologiques aux auditeurs et pas plaquer mon ressenti, mais à la manière dont les étudiants, pardon, appréhendent leur propre situation, c'est-à-dire que on peut ne pas se former la même vision de l'avenir en fonction de là où on a pu être accepté ou non comme étudiant. Et là, je reviens vers vous, Héloïse Lefebvre-Milon.
Oui. Bah effectivement, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. La mise en place de la sélection, pour revenir sur ce que vous disiez, ça montre bien que ces différentes périodes qui alternent qui voient en tout cas plus ou moins de massification au cours du temps, c'est bien la conséquence d'orientation politique, de priorité. Et donc la mise en place de Parcoursup notamment et de mon master et de toute la sélection à l'université va à l'encontre et démontre bien comment les libéraux, tels qu'incarnent Emmanuel Macron et ses gouvernements, vont à l'encontre de cette idée de massification. Et donc, la mise en place de Parcoursup, c'est un énorme stress pour les étudiants et les étudiantes. Et en plus de ça, l'énorme précarité que subissent les étudiants et les étudiantes et le coût des études aussi nous permettent de calculer un chiffre qu'on a sorti à la rentrée dernière avec l'Union étudiante, qu'il y a des lycéens et des lycéennes qui ne candidatent même pas sur Parcoursup parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas financer leurs études au vu de ce qu'elles coûtent aujourd'hui. Donc ça représente environ 58 000 lycéens et lycéennes qui ne candidatent pas sur Parcoursup parce qu'ils n'ont même pas envie, n'ont pas l'espoir d'être affectés quelque part. Et pour revenir sur ce que vous disiez de hiérarchisation et du fait que ce que disait aussi Jean-François Condette sur le fait que ça ne concerne pas, cette pression, cette précarité, elle ne concerne pas qu'une seule jeunesse, mais plusieurs jeunesses. Nous, ce dont on parle, c'est qu'il y a un véritable parcours du combattant au cours de l'enseignement supérieur. À la fois, il faut avoir assez de moyens pour pouvoir s'inscrire à l'université, enfin, passer Parcoursup, avoir le capital culturel, le capital social pour être en capacité de faire ses dossiers, ses lettres de motivation, etc. Et ensuite, c'est une fois arrivé dans l'université, encore un véritable parcours du combattant pour pouvoir parcourir tous les obstacles que sont la précarité étudiante, l'accès au logement, etc. Et donc nous, ce qu'on démontre, c'est qu'il y a un véritable tri social et un tri raciste au sein de l'université, parce que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit là sur les enfants de cadres et d'ouvriers, on voit que les enfants de cadres, ils sont trois fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur. Et plus on grimpe dans les échelons, c'est-à-dire entre la première année de licence et jusqu'au M2, puis jusqu'au doctorat, le nombre d'enfants d'ouvriers issus de classes populaires, il diminue comme peau de chagrin. Et ça, c'est bien le résultat. Enfin, ça démontre bien que au sein de l'université, est organisé ce tri social et ce tri raciste qui fait que aujourd'hui, c'est... comme le mot qu'on utilise et qui va bien quand on parle de précarité et de sélection à l'université, un véritable parcours du combattant.
Alors, raciste, parce que les élèves de classe sociale populaire sont souvent et beaucoup plus souvent issus de l'immigration, ou vous y ajoutez quelque chose de plus? Parce que là, je pense qu'il faut quand même préciser votre pensée. Et puis aussi, est-ce que votre syndicat ou votre union de syndicats compte parmi ses adhérents des élèves de filières sélectives ou de l'enseignement privé?
Alors d'abord sur la question de cette sélection raciste à l'université, il y a deux choses. Il y a à la fois que structurellement dans la société, les personnes issues de l'immigration sont d'autant plus, enfin sont plus précaires et donc subissent d'autant plus le fait qu'il faut avoir un certain nombre de capital culturel, capital social et capital économique pour accéder à l'université. Et ensuite, c'est aussi parler de la manière dont Parcoursup, qui est présenté comme une simple plateforme algorithmique qui vient dire aux étudiants où est-ce qu'ils vont aller s'inscrire l'année prochaine. Pour autant, il y a effectivement des biais racistes qui s'appliquent dans cette sélection. Et donc, une enquête de l'ONDES avait notamment démontré que les candidats qui ont des noms et des prénoms identifiés comme d'origine française, ils ont 8,5% de chances de succès de plus que les candidats et candidates qui ont des noms et des prénoms identifiés comme d'origine africaine. Et donc, c'est de ça dont on parle quand on parle de sélection raciste à l'université.
Je pense que j'y reviendrai dans une émission. On sait que sur l'orientation scolaire, en tout cas, des biais jouent, qui sont des biais institutionnels. Mais pour le supérieur, c'est un peu un sujet pour moi à explorer et à éclaircir. Donc, merci de me mettre sur cette piste et sur la composition des adhérents de votre syndicat. Parce qu'en fait, on sait que le militantisme étudiant, c'est pas forcément un truc de classe populaire.
Dans les syndicats étudiants, dans notre syndicat étudiant, on est plus implanté dans les universités les plus classiques. Enfin, là, il y a des licences, des masters, un petit peu en BTS et dans les IUT de manière générale. Il est vrai que de manière parce qu'il y a une histoire aussi dans les universités de mobilisation. Moi-même, j'ai commencé mes études à Tolbiac, dans un centre de Paris implanté en Sorbonne. Il y a aussi une culture de la mobilisation qui existe différemment dans d'autres lieux d'études d'enseignement supérieur et qui voit aussi les campus, comme c'était dit tout à l'heure, les campus changer, se dispatcher sur le territoire davantage, qui fait qu'il y a moins d'étudiants qui se trouvent au même endroit et que les réalités, elles sont très différentes entre des étudiants qui se trouvent en master de recherche et des étudiants qui sont en alternance ou qui sont en apprentissage.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Endormi depuis de longs mois, ville on s'agace quand on parle de toi. L'hiver a duré trop longtemps et les passantes affairées dans tes rues ne te regarde plus, on ne t'aime plus. On te traverse sans prendre le temps d'admirer tes talons. Quand d'un coup miracle il neige et par la force des choses on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence, on retombe en enfance. Soudain vêtu d'un voile blanc, ville, tu rayonnes au milieu de la nuit. Ce soir, c'est toi la plus jolie. Même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. On te traverse, ce soir on prend le temps d'admirer tes talons. Miracle, il neige et par la force des choses, on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres. On te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence, on retombe en enfance.
Retombe en enfance, il neige, une chanson de Voyou qui est un peu d'actualité. L'actualité, c'est aussi la pauvreté des étudiants en France. Et on se demande en quoi cette question historique s'enrichit, si j'ose dire, de paramètres nouveaux. Ce qu'on a vu, c'est que cette pauvreté a augmenté substantiellement parce que le nombre d'étudiants augmente et ces nouveaux étudiants viennent davantage de milieux populaires. Ils s'inquiètent aussi dans un paysage universitaire qui est très hiérarchisé. C'est pas pareil d'étudier dans une filière sélective que non sélective, par exemple. Mais il y a encore des hiérarchies entre les villes, entre les universités qui peuvent être assez subtiles. Je pense qu'on l'a entendu. En même temps, si on continue à s'intéresser à cette question de la pauvreté étudiante, Julien Mémon, puisque vous avez publié ce livre Fin d'études, donc Fin FAIM, je dois le préciser, c'est un libelle au seuil. Expliquez-nous pourquoi, vous qui êtes à la tête d'une association qui s'occupe d'aide alimentaire, l'aide publique semble si peu efficace et peut-être pas à la hauteur des besoins. J'ai rapidement évoqué le CROUS. Enfin, il y a des institutions normalement qui sont censées loger, nourrir, enfin les restos U, les repas à 1 euro qui ont été lancés après le Covid. Voilà pourquoi c'est pas du tout à la hauteur des besoins selon vous et quel est le rôle de la société et des associations?
Alors, d'abord, c'est un constat, c'est-à-dire que si ces institutions fonctionnaient bien, il n'y aura pas d'étudiants qui viendraient chercher un colis d'aide alimentaire tous les jours dans les grandes villes de France, comme ceux que nous, on distribue. Deuxièmement, j'ai l'impression, et c'est ce que je défends aussi dans l'histoire, la petite histoire de la précarité étudiante dans ce bouquin Fin d'études, que en France, on aide mal ceux qu'on a identifiés, c'est-à-dire les boursiers, puisque les bourses ne sont pas indexées sur le coût de la vie, puisque les bourses ne permettent pas aux étudiants de s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils sont aidés mais ça ne leur suffit pas, ils sont obligés de travailler à côté, et même en travaillant à côté, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc on aide mal ceux qu'on a identifiés et on ignore totalement ceux qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que personne ici n'est en mesure de quantifier le nombre d'étudiants qui sont en précarité, qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ne sont pas en mesure de poursuivre leurs études. Et quand je dis personne, c'est aucun parlementaire, c'est aucun ministre, fût-il de l'enseignement supérieur, aucun premier ministre et aucun président de la République. Les syndicats étudiants, les différentes études qu'on peut consulter, nous permettent de penser qu'il y aurait à peu près 1 étudiant sur 3, donc à peu près 1 million d'étudiants en France, qui seraient en grave précarité. qui seraient en insécurité alimentaire à un moment donné dans l'année. Mais ce sont des propositions, ce ne sont pas des statistiques, parce qu'il n'y a aucun système statistique fiable en France aujourd'hui qui permette de quantifier cette précarité. Et à mon avis, c'est le premier point dans la réponse à la question « qu'est-ce qu'il faut faire ?»
Oui,
qui fait quoi là-dedans ? Voilà, bah oui. Qui les aide ? Alors, les CROUS, ils ont été créés, notamment à la demande de syndicats étudiants, notamment de l'UNEF, qui existe depuis 1907, qui en 1930, dans les années 30 et dans les années 50, évidemment, dénonce la pauvreté en milieu étudiant, dénonce la situation de ces jeunes travailleurs, parce que c'est comme ça qu'on les décrit à ce moment-là. Les syndicats étudiants dénoncent la précarité ou la misère en milieu étudiant, parlent de logement, c'est le premier point, parlent de restauration, parlent de situation dans la société en général, mais finalement ne parviennent pas, sauf par à-coup en quelque sorte, à se faire entendre. Et donc, ils sont en partie à l'origine de la création du CROUS, enfin du CNUS, du en 1955 et puis ensuite des CROUS. Ces institutions, elles sont en charge notamment du logement étudiant, donc de résidence, de la construction et l'entretien et de la gestion de logements étudiants peu chers ou en dehors du marché pour des étudiants qui en auraient besoin. Sauf que la demande a explosé.
Vous pouvez nous dire le pourcentage d'étudiants logés par le CROUS à Paris ?
Mais si vous avez enfin, je vais vous dire...
2%.
2%, ouais.
C'est dans votre livre. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Mais vous avez... Je donne un autre chiffre. Vous avez des plans gouvernementaux en ce moment qui tablent sur la construction de 45 000 logements d'ici fin 2027, je crois. Toutes les organisations étudiantes s'accordent sur le fait qu'il faudrait 600 000 logements. Il y a quand même un petit problème. Il y a quand même un petit problème dans... la conception qu'on se fait des étudiants dans la société française, de la place qu'on veut réserver à la totalité des étudiants et pas seulement à certains privilégiés, et des vecteurs par lesquels on peut déprécariser une partie de cette jeunesse. Si on règle la question du logement, on règle en grande partie la question de la précarité des étudiants. Donc on sait par où attaquer le problème. Et pour répondre à votre question initiale, qui était qui s'en occupe, pourquoi, comment, les CROUS, le CNUS, les institutions publiques ignorent les étudiants qui ne sont pas boursiers. Donc déjà, ils ne les voient pas. C'est quand même l'immense majorité des étudiants précaires. Ils ne sont pas boursiers. Donc déjà, on ne les voit pas. Qui les voit et qui permet de les voir, ce sont les associations qui leur viennent en aide et qui leur distribuent des colis. Et parfois, des distributions qui sont médiatisées, ce qui permet à tout le monde en France de prendre conscience de la gravité du problème. Comme ces distributions sont organisées d'une certaine manière, les étudiants qui en ont besoin viennent. Parce que, je prends le cas d'une association que je connais bien, mais comme ce sont des étudiants qui distribuent aux étudiants, ils veulent bien venir. Ils viendraient pas forcément dans tous les dispositifs d'aide alimentaire qui existent pour d'autres publics. Donc, on peut les voir, on peut les quantifier, on peut avancer dans cette perspective, et à ce moment-là, on pourra traiter la question de la précarité étudiante, puisqu'on en sait, on sait qui sont ces étudiants précaires. Nous, on le sait, puisqu'il y a des études qui sont menées. Il y avait Héloïse de l'Union étudiante. Il y a des études de l'INSEE, des études du SAMU social, des études différentes associations, de l'Observatoire de la vie étudiante. On sait qui sont les étudiants en précarité. Donc, on sait que le logement représente une part centrale dans le budget de ces étudiants. Et qu'aujourd'hui, les institutions publiques ne parviennent pas ni à aider ceux qui en ont besoin, ni à déprécariser ceux qu'elles sont censées aider.
Logement qui est une grande question, pas seulement pour les étudiants. Hein, c'est ce qu'on voit au fil des études qui sont publiées sur la question par des associations et des fondations qui cherchent à aider les plus pauvres. Mais question qui concerne un grand nombre de Français qui consacrent bien plus d'un tiers de leurs revenus à leur logement. Le temps passe à toute vitesse. Jean-François Condette, ce que je me demande, c'est comment on peut valoriser et peut-être défendre, non pas l'enseignement supérieur globalement, mais l'université dont on dit qu'elle concentre tant de problèmes aujourd'hui et qu'elle joue un peu sa survie avec ce mauvais financement public, on l'entend. En tout cas, c'est dénoncé par nombre de présidents d'université, hein, pas seulement par les syndicalistes étudiants. Alors, comment défendre l'université aujourd'hui ?
La question est large. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est la pauvreté en milieu étudiant. Elle était déjà en partie présente, pas à cette échelle-là, auparavant, avec c'est l'UNEF, en fait, enfin, l'association étudiante, les associations locales qui ont créé les premiers restos U dans les années 1920, les premières résidences dans les années 30, etc., et surtout dans les années 50, 70. Alors, je voudrais quand même aussi signaler que les universités, avec les moyens qu'elles ont, elles essaient quand même de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour aider les plus précaires. Nous, par exemple, sur l'université de Lille, hein, on a 47% d'étudiants boursiers. Le repas à 1 euro, il a été maintenu, il est toujours maintenu. Je crois qu'il y a aussi quand même beaucoup de collègues, beaucoup d'enseignants qui mettent en œuvre tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aider au maximum, à la fois, je dirais, dans le suivi, dans l'aide, en mettant une partie des cours en ligne, en essayant aussi d'aider les étudiants salariés par des régimes d'examen aménagés, enfin, etc. Donc l'université, elle reste pas, je dirais, passive face à ce constat, avec les moyens qui sont les siens. Alors pour défendre l'université au sens large, moi je pense que c'est quand même là que se fabrique le savoir et que se diffuse le savoir, et qu'il y a quand même encore aujourd'hui un enjeu majeur qui est celui des diplômes. Alors on peut toujours dire, bah oui, mais il y en a de plus, donc ils valent moins cher. Mais il y a quand même le fait d'avoir le diplôme qui garantit quand même normalement davantage un emploi que pour ceux qui n'en ont pas. Et je pense aussi qu'il y a une communauté universitaire qui s'engage vraiment pour essayer de faire le maximum pour ses étudiants dans l'état actuel des finances. Donc ça rejoint les nouvelles politiques de financement, hein, là on peut peut-être être plus critique. Les collectivités territoriales ont pris de l'ampleur, et c'est vrai que habiter le Nord-Pas-de-Calais, le Limousin ou l'Île-de-France, c'est pas exactement la même chose au niveau des moyens disponibles. Mais moi, il me semble que quand on regarde quand même cette massification, cette multiplication des effectifs par trois, et plus, elle a quand même, dans l'ensemble, une bonne partie des étudiants finissent quand même par avoir un diplôme qui va leur servir dans leur carrière, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi relativiser
mais en même temps,
le bilan, même si c'est vrai qu'il y a des questions de pauvreté, c'est évident. Ouais.
Pour revenir à un point historique, Jean-François Condette, on sait aussi que l'université, elle n'était pas censée forcément tout... Enfin, elle n'était pas censée former les élites, en fait. Par exemple, De Gaulle pensait que c'était aux grandes écoles de former les élites, et c'est un modèle qui est resté très présent. Je crois pas trop m'avancer en énonçant cela. Et que l'université, elle est plus censée former des salariés du tertiaire, intermédiaire. Alors peut-être, après, elle devient sélective, et ce sont des élites, finalement, qui deviendront... peut-être professeurs d'université eux-mêmes, parce que c'est aussi des professeurs, et aussi des professeurs du secondaire que forme l'université. Mais bref, que cette université, elle a une place finalement intermédiaire.
Je ne vais pas remonter à Napoléon Ier et à la Révolution, avec l'acceptation qui est deux voies, c'est-à-dire les classes prépa, les grandes écoles, et d'un autre côté, les universités. Mais pendant tout le 19e, l'université, elle est aussi là pour former une élite. Hein. Mmh. Elle forme une élite du savoir, une élite qui sera licenciée et qui permettra de devenir enseignante, et, enfin, etc., etc. Après, nous, en France, on a la spécificité, en effet, d'avoir toujours eu à côté un autre modèle qui est celui des classes prépa et des grandes écoles. Mais alors, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de quelle université on parle, quoi. Jacques Verger et Christophe Charles ont bien montré ça, c'est-à-dire que, en fait, le paysage universitaire français aujourd'hui, il est vraiment presque dual entre des universités de territoire qui sont chargées justement de faire progresser la population qui est autour, quelque part, d'accueillir dans des études supérieures des étudiants qui peut-être il y a 30 ans, 40 ans n'auraient pas fait d'études supérieures, donc ils sont au service de cette massification, de cette promotion sociale. Et un certain nombre d'universités qui deviennent, entre guillemets, des universités d'excellence, mais qui sont pas forcément sur les mêmes critères. C'est-à-dire là, ça va vraiment être la réussite à certaines filières très sélectives. Et puis, ça va être la recherche. Enfin, ça. Or, ça me semble un peu embêtant, quoi. Il y a des universités d'excellence et d'autres de territoires. Toutes les universités devraient être des universités d'excellence au niveau recherche. Mais ça rejoint la question des moyens.
Qui est toujours posée en partie par les présidents d'université, mais pas seulement, aussi les syndicats. Alors, je vais vous demander de répondre assez vite, parce qu'il nous reste très peu de temps, Héloïse Lefebvre-Milon, c'est comment vous défendriez l'université comme modèle aussi de formation, puisque vous, c'est bien le cursus que vous suivez, et on peut dire que vous êtes en master de géographie.
Oui, bah, pour défendre l'université... Avec les étudiants et les étudiantes, on se mobilise. C'était déjà le cas l'année dernière, en 2025, au moment de l'adoption des budgets.
Non, mais comme formation, pour dire que c'est une formation qui est valable, intéressante, enrichissante, et qui permet de construire son présent et son avenir.
En tout cas, l'université, elle a de différents des formations qui peuvent être plutôt tournées vers le fait d'avoir un emploi très vite et d'entrer dans le monde du travail, du fait qu'elle est censée, en théorie, en tout cas, former des citoyens, des citoyennes éclairées, et donc être en capacité d'apporter des connaissances, du savoir, et pas seulement que des compétences à toute une jeunesse. Et donc c'est ça que nous, on revendique en tant que syndicaliste étudiant, l'idée que l'université, parce qu'elle forme par la recherche, pour la recherche en partie, mais pas seulement, elle est en capacité de former toute une classe d'âge au plus haut niveau de qualification, et donc aussi être en capacité de transformer la société à terme, parce que c'est ça dont on parle quand on parle de former toute une classe d'âge, c'est aussi être en capacité, comme vous le disiez en introduction de cette émission, il me semble, de faire face à l'ensemble des crises qui viennent, les crises sociales, la crise climatique aussi. Si on n'est pas en capacité de former cette jeunesse à faire face au réchauffement climatique, aux catastrophes qui arrivent, comment est-ce qu'on peut envisager de résoudre ces crises? Et c'est ça que l'université permet. C'est pour ça qu'il s'agit de défendre cette université, mais dans un modèle qui soit public, gratuit et ouvert à toutes et tous.
Et je termine avec vous qui êtes avec moi en studio. Et merci beaucoup pour ça, Julien Mémon, pour défendre l'université à l'heure où on expose tant les problèmes et les problèmes des étudiants. Je crois que c'est bien qu'on ait pu le faire dans cette émission. Que diriez-vous?
Mais on voit que l'université, dans sa construction, dans son histoire, c'était les travaux de Le Goff aussi sur la création et l'invention en quelque sorte de l'université. C'est
donc Jacques Le Goff. On a cité beaucoup d'historiens, oui, Antoine Cros aussi, oui, qui est historien de l'éducation. J'en profite pour le dire, et qui a écrit du changement dans l'école, qui a beaucoup analysé le système scolaire.
Mais sur le fait que l'université, c'est un lieu de contre-pouvoir. Et on voit l'intérêt d'avoir des contre-pouvoirs aujourd'hui. On voit très bien que certains pouvoirs politiques s'en prennent d'abord aux universités, aux universitaires. C'est le cas aux États-Unis. On voit très bien ce qui se passe aux États-Unis. Et deuxième chose, et donc c'est intéressant, pardon, d'avoir ces lieux de savoir qui deviennent des lieux de contre-pouvoir. Je pense à Bamako, au Mali, où il y a une colline sur laquelle domine l'université, et sur la colline d'en face, il y a le palais présidentiel. Donc là, il y a la colline du savoir et la colline du pouvoir. Et je trouve ça intéressant de voir que dans une société équilibrée, c'est utile d'avoir une colline sur laquelle poussent de nombreuses universités. Et la deuxième chose, c'est les étudiants. C'est une classe sociale particulière, évidemment plus jeune que le reste de la société, qui promeut des changements, et des changements parfois décisifs pour les sociétés. Ça en fait une classe qui est parfois dangereuse, ou perçue comme telle par les tenants du pouvoir.
Vous pensez que c'est encore le cas ?
Ah ben, je pense que c'était le cas en 68, et je pense que c'est le cas encore aujourd'hui, pour parler de la France. Je pense que c'est ce qu'on voit à l'œuvre dans beaucoup de pays du monde. On voit très bien ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Roumanie. On voit combien en Chine, on voit combien les étudiants peuvent être les promoteurs du changement, et parfois être l'aiguillon qui va faire vaciller le pouvoir, voire changer complètement les choses. Donc, bien sûr qu'il faut défendre l'université et lui donner les moyens de fonctionner. Parce que si on ne donne pas les moyens à ce système de produire du savoir autant que nécessaire pour une société, pour qu'une société se développe et réduise autant que possible les inégalités, à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut des moyens pour l'université, et en particulier pour l'université publique. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, c'est pas le cas.
Je crois qu'on l'aura bien entendu dans cette émission. Merci Julien Mémon. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Fin d'études. C'est un petit libelle, je dis ça parce que c'est un texte relativement court, publié au Seuil. Je rappelle le titre du livre de Jean-François Condette, Histoire de l'enseignement supérieur en France, publié chez Armand Collin. Jean-François Condette, on va non pas se revoir, mais se voir dans ce studio, je l'espère, prochainement. Je remercie l'équipe d'Être et Savoir cette semaine, Apolline Limosino qui m'a aidé à programmer l'émission, François Richer aux manettes, avec Hervé Rio, le responsable technique de la chaîne, parce qu'on a fait un multiplex et c'était la première fois. Donc merci à vous tous.